Je m'arrêterai sur la triple ambiguïté de l'unité lexicale. Dont, quand je dis l'unité, ça signifie unité lexicale laïcité. Puis j'essaie de vous exposer les usages qui sont faits de ce mot en Tunisie. Et je dégagerai des emplois collocatifs et des champs sémantiques qui se dégagent de ces emplois, avant de finir par des illustrations qui ne font pas partie de ce corpus, mais qui l'illustrent très bien. Donc, comme je viens de l'indiquer, il ne s'agit pas d'une étude sociopolitique sur la laïcité en Tunisie, loin s'en faut, j'en ai pas les compétences. L'objectif initial, c'est de scruter les emplois linguistiques dans le discours généralistique des mots en rapport avec la laïcité. Pour ce faire, on est parti d'un corpus de 87 millions de mots faits de textes journalistiques tunisiens qui couvrent la période des années 2007 jusqu'à 2011, et on a focalisé sur la partie qui concerne la période qu'on pourrait appeler post-Ben Ali, c'est-à-dire 2011. Pourquoi ? Parce que je vous le dirai tout à l'heure, parce qu'il n'y a pas grand-chose d'intéressant dans la période de 2007-2010. Et ce corpus, c'est le fruit d'un travail de coopération entre l'Université de Paris 13, l'Université La Manouba et l'Université de Cologne. Et du côté allemand, c'est dirigé par le professeur Blumenthal et Diversi. Là, c'est la base à partir de laquelle on peut avoir les interrogations. Et donc, on interroge la base et on récupère automatiquement tous les emplois du terme qu'on cherche à avoir. En quoi consiste la méthode ? Il s'agit d'une méthode descriptive qui s'appuie sur des données de corpus, c'est-à-dire on ne sait pas ce qu'on va trouver. On ne sait pas. Et l'objectif, c'est de dégager tous les emplois des unités concernées. Un emploi d'un mot est défini par l'ensemble des occurrences de la même unité lexicale qui partagent le même contenu sémantique et les mêmes distributions dans le cadre de la phrase. C'est-à-dire qu'un emploi, ce n'est pas que du sens, c'est du lexique inséré dans la combinatoire de la phrase, d'où le sens spécifique. Le même mot inséré différemment dans la phrase risque d'avoir plusieurs significations. Je vous donne un exemple. Si vous prenez le verbe descendre, par exemple, si vous mettez à gauche un humain de descendre et à droite un autre humain, descendre, ça signifie tuer. Paul a descendu Jean. Donc, c'est. Par contre, si vous remplacez à droite l'humain par une dizaine de whisky, ça va donner boire, etc. Donc, c'est ça la méthode. C'est la méthode que nous avons élaborée dans le cadre de notre laboratoire. Et il s'agit, pourquoi ? Parce qu'on part du principe que les unités lexicales dans les phrases naturelles, les langues naturelles, ont en moyenne une polysémie d'au moins 5 emplois différents, donc 5 significations différentes pour les langues naturelles. C'est-à-dire, il y a des mots qui en ont des centaines. Par exemple, le verbe prendre. Le verbe prendre, c'est un verbe très polysémique. On en a énuméré quelques centaines d'emplois différents avec des significations différentes, du genre prendre une gifle, ce n'est pas prendre un bain, ce n'est pas prendre le bus, comme vous le remarquez, ce n'est pas prendre une omelette. Donc ça change, et c'est ça le principe de. Et puis il y a également ce qu'on appelle l'attractivité lexicale, c'est ce qu'on appelle les collocations. Les collocations, ce sont des solidarités lexicales qui se font dans les discours. Et quand on parle en réalité, et la maîtrise d'une langue se mesure à la maîtrise des collocations, c'est-à-dire de cet assemblage. Par exemple, un Français dirait, négocie un virage, par exemple. Ça n'arrive à l'esprit de personne, des étrangers, que de négocier, qu'est-ce que ça signifie? Moi, par exemple, je croyais que c'était que les Arabes étaient négociants. Et quand j'ai su que les Français négocient des virages, même les virages, je me suis dit, ça commence bien. Donc, il s'agit en fait d'une approche inductive, c'est-à-dire on voit le corpus, on voit les données et on essaie de dégager les données. Et croyez-moi, je ne savais pas ce que j'allais trouver avant de... Bon, je me suis dit, quand j'ai commencé, je me suis dit, dans quelle galère Jacques m'a mis. Alors, concrètement, j'ai fait une requête qui concerne le mot « laïcité ». Donc, je suis entré sur la base que je vous ai montrée et j'ai mis « laïcité ». Ça concerne tous les journaux qui étaient récupérés. On reçoit automatiquement toutes les occurrences. Et ces occurrences se présentent sous forme d'un concordancier. Je vais vous donner un exemple. C'est-à-dire, vous avez trois espaces. Au milieu, vous avez le mot, le chercher, et vous avez les contextes droits et les contextes gauche. Et les contextes, dans cette base de données, on peut les élargir comme on veut. C'est-à-dire, il n'y a pas vraiment de contraintes. Et puis, on procède à l'analyse linguistique de l'ensemble de ces occurrences. L'objectif, c'est de dégager les emplois, c'est-à-dire les emplois que les locuteurs en font. Et puis après, on dégage les résultats, et c'est aux spécialistes d'en faire l'interprétation. C'est-à-dire voir comment... Mais je vous dis tout de suite que j'ai retrouvé dans le débat d'aujourd'hui tous les ingrédients que j'ai trouvés dans le discours. Tous les ingrédients. Ça signifie qu'on n'est pas sur une autre planète. Donc, alors, toute la période de 2007, la période de 2007-2010, ça va, vous m'entendez? Parce que j'ai une voix qui parle. Ah oui, pour l'enregistrement. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, toute la période de 2007 jusqu'à 2010, 524 occurrences. Et pour la seule année 2011, 586 occurrences. Donc c'est pour vous dire que la laïcité a bien nourri des débats. Donc, voilà, je vous donne un concordancier. Voilà les concordances. Donc, les 586, on les a eus alignés, on ne les a pas choisis. Et donc, ça nous donne tous les emplois. Donc, au milieu, vous avez laïcité et vous avez les contextes. Les contextes avec, évidemment, là, c'est la presse, mais il y a d'autres journaux. La presse étant le titre d'un journal. Alors, j'en arrive maintenant à la triple ambiguïté de l'unité laïcité. Le premier constat, c'est que ce mot a une ambiguïté fondamentale et ses sources d'ambiguïté sont différentes. La première, elle concerne les domaines des sciences humaines et sociales. La presque totalité de la terminologie des sciences humaines et sociales, c'est des mots de la langue courante. Donc, il y a toujours une ambiguïté très profonde, c'est-à-dire le commun des mortels peut lire un texte spécialisé, il a l'impression de comprendre parce qu'il trouve dans le texte des mots qu'il connaît, mais en fait, pour le spécialiste, se cachent derrière ces mots des termes. Et ces termes ont des définitions précises qui sont maîtrisées uniquement par l'expert du domaine. Je vous donne un exemple très simple. Dans les sciences du langage, le mot « mot », qui est un mot courant, c'est ce qu'il y a de plus problématique. Le nombre de revues spécialisées consacrées à la problématique du mot, c'est quelque chose de phénoménal. Alors que quand on lit ça, on dit « mot », bon, on croit qu'il s'agit d'un petit mot. Donc il y a cette ambiguïté qui s'applique également à la laïcité. C'est-à-dire, l'expert entend quelque chose, ou plusieurs choses, comme on l'a vu ce matin, et parce que les experts eux-mêmes ne sont pas d'accord, mais ils sont toujours dans la sphère des concepts, des définitions, sont toujours dans le concept et des définitions, mais le commun des mortels, lui, il a, pour lui, il y a un sens. Hein, c'est-à-dire, et on ne peut pas mettre sur le même pied d'égalité le mot et le terme. Un terme, il pose une équivalence entre une unité lexicale et un contenu conceptuel bien déterminé et reconnu. Les outils de reconnaissance des concepts, ce sont les dictionnaires spécialisés qui font référence dans le domaine. Si vous prenez par exemple le domaine médical, ben, il y a une terminologie bien déterminée, il y a des références, il y a des dictionnaires, et le dictionnaire, c'est l'outil de validation de la terminologie dans un domaine bien déterminé. Alors que le mot, c'est un simple signe d'un système linguistique. Et on n'a pas besoin d'être expert pour parler une langue et pour comprendre une langue. Tout comme on n'a pas besoin d'être un grand spécialiste d'étymologie pour utiliser les mots. Donc, on n'a pas besoin de spécialité. Les mots, on les emploie. Et dans le corpus, j'ai dégagé, par exemple, des contextes où on donne des définitions. Là, on a affaire à un terme. Donc, je vous laisse le soin de lire ce passage. Laïcité est définie comme une forme de vie civilisée qui constitue le fondement de la liberté, de la démocratie, de l'indépendance, de la souveraineté nationale et de l'idéal humaniste. Peu importe, on peut être d'accord, pas d'accord. Mais là, qu'est-ce qu'il y a? Il y a une définition qui est donnée. Donc là, et c'est entre guillemets. Là, un autre exemple, c'est une conception de l'organisation de la société visant à la neutralité réciproque des pouvoirs spirituels et religieux par rapport aux pouvoirs politiques, civils et administratifs. On peut dire tout ce qu'on veut, mais ce sont des textes tunisiens, hein. Ce ne sont pas des définitions que j'ai cherchées, c'est le corpus. C'est-à-dire qu'il y a des usages terminologiques dans le discours et les gens prennent soin de définir leurs concepts. Ils disent « Attention, là, je n'utilise pas le mot laïcité comme tout le monde. » Voilà, j'investis l'unité lexicale laïcité par un contenu conceptuel bien délimité. Donc, il y a même dans ce discours, c'est-à-dire dans les occurrences que nous avons relevées, une portée terminologique qui est soulignée par les gens. Par exemple, là, regardez, cessons de tourner autour du pot et disons que la Tunisie s'interroge sur la réelle éventualité de prise de pouvoir par les islamistes. Le Tunisien, sans user forcément d'une terminologie politique appropriée, laïcité, modernisme, théocratie, craint de se voir confisquer ses acquis de liberté, etc. etc. Donc, là, il y a la conscience qu'il y a un problème terminologique. Donc, je suis toujours dans ces ambiguïtés. Il y a des exemples, si nous prenons, dans là, j'ai donné des exemples d'emploi terminologique. Des exemples de mots. Certains sont contre une certaine laïcité qui tendrait à faire de ce lien quelque chose de plus relatif, etc. etc. C'est-à-dire, voilà, donc on emploie le mot laïcité, mais d'une manière floue, parce que j'ai oublié de vous préciser que les mots de la langue ont cette spécificité d'être flous. Et c'est pour cela que les mots s'adaptent à toutes sortes de situations et à toutes sortes de locuteurs. Et c'est ce qui donne une certaine élasticité à la langue. Ce qui n'est pas le cas dans la terminologie. Un doctorant, le jour où il soutient sa thèse, s'il emploie un terme d'une manière équivoque, il est sanctionné. Il est sanctionné, pourquoi? Parce qu'il est jugé par les experts. Donner un article à une revue spécialisée et employer les termes, comme vous l'entendez, votre article ne sera pas publié, tout simplement. Donc, et là, le mot laïcité signifie unité du peuple. Voilà, donc, unité qui ne peut se réaliser que sur la base de trois exigences, etc. Donc, là, je vous donne des exemples d'emploi de mots. Et il y en a, hein. Laïcité n'est pas blasphème. La question de la laïcité fait l'objet d'une grande polémique dans le forum politique et social, etc. Donc, là, on est dans des emplois de mots. On peut multiplier les exemples. Hein, Jules Ferry, regardez dans père de la laïcité à la française, l'était ainsi que Karl Marx, maître des pensées ratées. Là aussi, donc, il était barbu, comme vous le voyez. Donc, on parle, voilà, regardez dans quel contexte on parle de laïcité. Bien. Deuxième ambiguïté, source d'ambiguïté, c'est le contexte bilingue. Parce que même si on s'exprime en français, l'arrière-fond, il est arabe ou est tunisien. C'est-à-dire que les gens, même de parfait bilingue, et il y en a en Tunisie, des gens qui sont de parfait bilingue ou trilingue, la référence, surtout s'agissant d'un contexte tunisien, elle est toujours. Et là, qu'est-ce qu'on constate? On constate, regardez cet exemple, il parle d'un ouvrage, il s'intitule, et là vous avez la traduction, le titre est en arabe évidemment, Al-Islam al-Almaniya, Al-Almaniya, qui est, ou je ne sais pas quoi, La al-Manikiya, Hiyadun, Wala Hurriya, La al-Hadiya. Autrement dit, mais ce n'est pas moi qui traduit, c'est l'auteur lui-même qui traduit, l'islam est laïcité, non laïcisme, neutralité religieuse, non athéisme. C'est le. Donc, vous voyez, en arrière-fond, il y a des références. Donc, la problématique que j'ai posée à propos du mot laïcité et du réseau lexical en français est doublée d'une controverse terminologique de mots également en arabe. Et du coup, par exemple, vous avez l'autre passage, que pensez-vous du débat sur la sécularité al-Maniya et la laïcité al-Maniya, qui a été traduit tout à l'heure par laïcité. Donc sécularité, laïcité, donc il y a tout un enchevêtrement de. Et en effet, si moi je me suis dit, mais pourquoi est-ce qu'il y a tout cela linguistiquement? Donc je me suis référé à deux dictionnaires de référence bilingues, Al-Manhal et Larousse, et qu'est-ce qu'on trouve? On trouve effectivement que les deux paradigmes sont mélangés. Je vous donne là. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on trouve? On trouve d'un côté le correspondant Al-Mana. Al-Mana, ça vient de Alam, le monde. Ça renvoie au monde ici-bas, en fait. Oui, le monde sensible. Et il y a Dunya, également le monde, le contraire de l'au-delà. Voilà, c'est ça. Voilà, ce qui est. Et donc, il y a un croisement des deux. Larousse, il les mélange, clairement. Et qu'est-ce que la synthèse de ce tableau? C'est que Alam, pour laïcité, je parle d'Al-Manhal, celui de Dunya pour la sécularisation, mais il emploie en même temps temporel pour sécularisation, les dini non-religion dans les non-religieux dans la définition, et la Russe les croise tous les deux. Donc, et cela nous conduit à une problématique qui est dite par les gens eux-mêmes. Ils disent qu'il y a un problème de laïcité linguistique. Regardez, chose qui a permis à l'historien de proposer que chacun s'exprime dans la langue qu'il arrange et de ne surtout pas politiser la langue. Une anthropologue présente va plus loin en disant que l'on peut même parler de laïcité linguistique face à cette double identité que l'usage de plus d'une langue invoque, etc., etc. Donc, il y a un vrai problème linguistique. Donc, déjà, parler de la laïcité en français n'est plus innocent. C'est-à-dire, on peut te reprocher de parler français en parlant de laïcité. Et je vais vous montrer comment les éléments du débat sont. La troisième ambiguïté, évidemment, est liée aux différents emplois dans le discours. C'est-à-dire, il y a une polysémie, comme la polysémie est de règle. Donc, on souligne le flou. Regardez, là, qu'est-ce qu'on. Il y a à l'évidence une incompréhension radicale du principe de la laïcité. Ce principe mérite donc d'être expliqué à celui qui voudrait connaître la chose avant de la juger. Qu'est-ce que la laïcité alors? La laïcité est avant tout un principe, etc., etc. Donc, le flou est constant dans l'emploi de là, un concept qui peut porter à équivoque. La laïcité, ses racines prennent source dans l'histoire de l'Occident chrétien, du temps où il fallait séparer l'Église dominante de l'État démocratique. Ce cheminement a été entamé depuis Saint-Augustin, etc., etc. Donc, là, il y a, et on peut multiplier les exemples, hein. J'ai multiplié les exemples exprès, on ne va pas lire tous les exemples, mais pour vous dire que ce n'est pas la matière qui manque, et cette ambiguïté dont je parle, c'est une ambiguïté réelle. Donc, et des fois, il y a des gens qui donnent leur propre acception de la laïcité. Ben, vous employez la laïcité dans ce sens. Ben, moi, je l'emploie comme ça. Voilà. La laïcité, c'est la non-religion, la chasse aux religieux, ou encore l'athéisme d'État. Telles sont les définitions délibérément perverties et trompeuses que certaines personnes ou groupes, décidément mal intentionnés, propagent insidieusement afin de diaboliser l'État. Mais attention, ce n'est pas l'État d'aujourd'hui. En Tunisie, c'était à l'époque où on était au mois de mars. Voilà, la date, c'est le 1er mars. Donc, c'est pas la même référence. Donc, d'aucuns considèrent que la laïcité est une forme de reniement des valeurs de l'islam. Voilà, c'est... donc, les gens investissent les mots de leur propre définition. Donc, regardez, la laïcité, là, dans ce débat qui s'annonce houleux, sous la bannière de la laïcité et de la modernité, la législation de la sécurité sociale a déjà fait et refait tranquillement des pas de géant dans l'instauration de l'égalité des sexes. Regardez les allusions qui sont en rapport avec les armes. La laïcité veut dire athéisme. Ce sont des textes qui circulent, hein. C'est-à-dire, c'est la presse. C'est la presse, c'est-à-dire, c'est pour ça que je me suis dit la meilleure façon de faire, c'est de donner la parole aux gens qui utilisent les mots. Alors, des fois, on utilise les mots pour les préciser, nier ou débattre de certaines acceptions. La laïcité pour la liberté des consciences. Dans leur obstination, ces adversaires de la laïcité qu'il faudrait maintenant cesser d'amalgamer, malhonnêtement, avec le mépris de la religion et avec l'athéisme. La laïcité pour défendre la religion, les religions. Défendre ce principe de laïcité, c'est aussi défendre la religion elle-même, quelle qu'elle soit, contre les manipulateurs du sacré qui chercheraient à s'interposer entre Dieu et les humains et imposer. Écoutez, moi j'ai l'impression d'écouter ce que j'ai entendu ce matin. Donc c'est-à-dire que ce sont des notions qui sont controversées et les uns et les autres donnent leur opinion et chacun a son arrière-fond et ses emplois propres. Et donc là, je vous laisse le loisir, la laïcité qui consiste à libérer l'espace public de toute mainmise, qu'elle soit religieuse ou idéologique. Donc j'étais aux propres conceptions des uns et des autres, c'est-à-dire chacun investissait le mot du contenu généralement idéologique, hein, idéologique qu'il a. Et là, regardez, la laïcité est une forme de reniement des valeurs de l'islam, des valeurs de